Nous accueillons Marie-France pour débuter cette émission. Bonsoir Marie-France.
Bonsoir Olivier.
Bonsoir. D'où nous appelez-vous Marie-France ?
Moi, je vous ai déjà appelé, je vous appelle de Colmar.
Ah oui, vous m'appelez de Colmar. Comment allez-vous Marie-France ?
Bon, la santé, on ne va pas trop en parler, hein, et puis le reste non plus. Enfin bon, aujourd'hui, il a fait nuit ici toute la journée.
Ah bon ?
Ben oui, il ne fait que gris, plus ou moins noir. Des gris foncés, des gris clairs, mais aujourd'hui, c'était gris-noir. Hein.
Pas de lumière aujourd'hui, donc, du côté de Colmar ?
Non, pas de lumière. Et c'est horrible, Olivier, quand on ne voit pas. Qu'il n'y ait pas de lumière extérieure, ça c'est presque invivable. Parce que je ne sais pas si vous vous rappelez, mais j'ai été très malvoyante. Et,
oui.
Et moi, c'est environ mars-avril que je vous avais appelé. Eh bien, du côté de ma fille, vous vous souvenez ?
Complètement.
Rien ne s'est arrangé.
Je me souviens complètement.
Voilà. Absolument rien.
Alors, rappelez-nous un petit peu, Laura, parce que bien évidemment, il y a ce soir des personnes qui n'ont pas entendu la première partie de votre, de votre histoire.
Oui.
Votre fille... Allez-y.
Ma fille, je ne sais pas pourquoi, si vous vous en souvenez, elle m'en veut à mort. Mon mari, qui n'était pas son père, est décédé il y a 35 ans. Et depuis, rien ne va plus. Mais ça, c'était encore pas grave. Je la voyais, je l'entendais, même si elle n'était pas contente. Mais enfin, je la voyais. Tandis que là, je ne la vois plus. Et pire que ça, quand je partais d'ici, et je pars de chez moi que... parce que toute seule, je ne peux plus, je ne vois plus que pour aller chez les médecins. Et en mars, quand je suis allée chez l'ophtalmo, quand je suis rentrée, la maison était cambriolée, vous vous souvenez de ça ? Elle m'avait pris tous les papiers.
Complètement, vous avez pris votre carte d'assurance sociale, vos papiers,
voilà.
Passeport.
Ouais. Le livret de famille, je ne sais pas pourquoi. ça me fait rire, mais je ris un peu jaune à la maison. Et voilà, des choses comme ça. C'est ce qui m'a obligée à... Mais la maison, elle est sous surveillance maintenant. Je dis la maison, toute la maison.
Alors, elle est sous surveillance, c'est-à-dire ?
C'est-à-dire qu'il y a des caméras qui ont été posées, qui sont reliées à un...
Ah, vous avez posé des caméras, carrément ?
Oui. Des caméras à l'entrée, des caméras aux quatre coins de la maison. Parce que
ça vous a coûté cher, ça ?
Oui, un peu.
Oui. Non, mais je vous le demande pour celles et ceux qui nous écoutent ce soir, qui aimeraient faire installer un système de sécurité, de surveillance, parce que souvent, on a des personnes... D'ailleurs, j'en profite pour dire que Jenny, qui nous a appelé hier soir, et est victime de cambriolage, Jenny... Vous nous avez appelé hier soir, mais vous avez mal donné votre numéro à Florian. Donc, rappelez-le au 3921, s'il vous plaît, et faites le 1 directement dès que vous entendez le disque, parce que nous avons essayé de vous rappeler hier soir, Jenny, et impossible de vous joindre, car le numéro que vous nous avez donné n'était pas bon. Excusez-moi, Marie-France, mais j'en profite pour le dire, parce que...
J'allais dire, c'est pas à moi que vous parlez.
Non. Jenny, elle est visiblement... victime comme vous de cambriolage, en tout cas d'intrusion dans son appartement. Et donc, c'est compliqué parce qu'elle n'arrive pas à protéger son appartement. Et vous, donc, vous avez fait installer un système de sécurité.
Sur vos conseils, je suis allée porter plainte, première des choses, qu'ils ont accepté, mais jusqu'à maintenant, ça n'a rien donné. Bien que j'ai de temps en temps des contacts avec eux, mais bon, je ne veux pas les embêter tous les jours. Mais il faut changer de serrure, c'est indispensable. Actuellement, il existe des serrures qui sont inviolables. Ça coûte un peu cher, ça coûte aussi dans les 500 euros. Hein.
500 euros.
Oui, le système d'ouverture. Hein. Mm-hmm. Personne, aucune autre clé ne peut rentrer. Bon, c'est un peu ennuyeux si vous vivez seul. Parce que pour en avoir fait l'expérience, je me suis trouvée, j'ai fait un malaise, je suis tombée par terre et toutes les portes étaient fermées et tous les volets étaient fermés. Alors il a fallu casser la porte, voilà.
Ah oui, donc, parce que vous ne pouviez pas vous lever en fait.
Mais non, je ne pouvais plus me lever. J'avais le bras et l'épaule et l'omoplate cassée. Alors c'était très douloureux, donc les pompiers ont fait ce qu'il fallait. Très très bien, je n'ai rien à dire. Mais et puis alors pour les ça il faut demander d'abord le devis à un spécialiste de la sécurité à la maison. Et ça coûte assez cher. Ça coûte quand même dans les 5 000 euros pour la pose de 1, 2, 3, 4 caméras.
Alors ces caméras, vous les avez disposées où en fait? Partout dans les pièges chez vous?
Non, pas partout. Sur les 4 angles de la maison, hein, c'est-à-dire tout de suite à l'entrée, il y a un panneau qui dit que voilà, la maison est sous surveillance électronique. Mmh. Une caméra au-dessus. On avance un peu, on arrive vers l'entrée parce qu'elle est un peu en retrait de l'entrée. Et il y en a une tout de suite au-dessus de l'entrée et un deuxième panneau. Et alors, comme l'immeuble est un peu biscornu, dirais-je, une autre caméra dans l'autre coin, donc ça en fait 3. Une caméra dans un coin où jamais personne ne va, et surtout pas moi, évidemment, parce que des difficultés à me déplacer. Ça, c'est donc la 4e. Et il y en a encore une 5e, puisqu'on a un retour. J'ai un retour sur la maison, bon, c'est un peu spécial. Où il y a aussi un coin dont tout le monde pourrait monter. Vous savez, la fois, on a montré le petit jeune homme qui a grimpé les 5 étages d'un immeuble où il y avait une dame en Rousseau-Né Pata à Paris.
Non.
Il a grimpé les balcons, mais je dirais comme un petit animal, vous voyez, qui est très agile. Alors, déjà, à l'époque, j'avais dit, moi, j'ai peur de ce truc-là. Je vous... Voilà, mais c'est ces caméras. Plus, il y a une location tous les ans, hein, parce que ce n'est pas une propriété qu'on peut s'approprier. C'est pas quelque chose qu'on peut s'approprier. Voilà, tout ça, il faut compter une très grosse somme. Environ 10 000 euros.
Combien?
Oui. 8 000 euros, exactement. 8 200.
D'accord, mais ça vaut le coup quand même, cet investissement. Donc vous vous sentez beaucoup plus en sécurité, je suppose, Marie-France.
Absolument, je me sens plus tranquille. J'ai moins peur la nuit et j'ai moins peur quand je suis absente, parce que ça arrive aussi, hein, que j'ai à voir des médecins ou des choses comme ça. C'est tout calme. Et par ce fait-là, je n'ai plus de nouvelles de personne. Voyez, ma fille, personne, mes petits-enfants, personne ne donne de nouvelles. Alors, je suis donc... quand j'ai appelé, il y a une semaine chez vous, c'est parce que j'ai un cafard monstrueux à l'approche de Noël. Parce que quand ma maman vivait et que ma famille vivait, et bien souvent ma fille n'était pas avec nous, eh bien... C'était Noël en famille, vous savez. Mmh. Eh bien ça, je n'aurai rien puisque je serai seule et ça m'angoisse terriblement. Je suis en colère après la télé et tous les trucs qui chantent déjà le sapin de Noël. Il doit y avoir beaucoup de gens comme moi qui sont seuls et qui souffrent de ces publicités, de ces... Vous savez, il faudrait peut-être aussi...
On n'est pas loin en même temps, hein, Marie-France. Vous savez, on est le 4... Non, remarquez, allez vous dire une bêtise. On est le combien aujourd'hui? On est le 8.
On est le 8, oui.
Oui, donc on n'est plus très loin de Noël. Et vous savez, c'est normal que les télévisions fassent de la publicité pour les événements de Noël à venir, pour ne serait-ce que les jouets, pour les enfants. Vous voyez, il y a tout un tas de choses qui se mettent en route. Vous savez comment ça marche, hein.
Je savais comment ça marchait.
Oui.
Mais moi, je pense aussi qu'il y a beaucoup de personnes seules, il y a beaucoup de personnes très malades. Et puis tous ces gens-là, ben, qu'est-ce qu'ils ont de Noël? Une orange? Mais une orange, on en a à longueur d'année, je dirais
Oui,
presque.
oui.
Moi, je suis un peu. C'est pas dans mon caractère d'être gris, mais là, tous les ans, c'est comme ça. Depuis que, maman, que tout le monde est décédé, parce que de ma famille, il ne reste personne que ma fille. Eh bien, depuis, je suis quand même un peu aigrie, un peu fâchée. Comment je me demande des fois comment je pourrais faire pour oublier un peu, pour penser que ça devait être comme ça.
Personne ne vient vous voir, Marie-France?
Mais j'ai des auxiliaires de vie.
C'est tout?
C'est tout,
Vous
voilà.
n'avez pas d'amis, des voisins, des voisines? Non?
La voisine qui était une grande amie, elle a un méchant Alzheimer, alors je n'ose même plus aller la voir. Elle ne me reconnaît pas, je lui dis deux, trois fois bonjour Monique en la citant. Non, elle ne répond pas, elle ne réagit plus. À gauche et à droite, il y a des maisons occupées par des avocats, des choses comme ça. Non, j'ai pas d'amis. Et puis vous savez, les amis, quand vous n'êtes pas en forme et que vous ne pouvez pas dresser la table quand ils arrivent, ben non, Marie-France, elle est devenue bizarre, elle ne propose même rien à boire. Mais pour moi, qui ne vois pas, écoutez, Olivier, il m'est arrivé un truc incroyable, ça n'arrive à personne. Une des auxiliaires de vie m'a fait un potage d'hiver, vous savez, un potage de légumes avec plein de choses dedans. J'aime beaucoup ça en hiver. Mais je voulais me remplir mon assiette, plus je disais. Il n'y a rien dans l'assiette où ça passe. Tout passait par derrière la grosse cuillère, par terre. J'avais tout par terre. C'était formidable. Non, vous voyez des. Eh bien, d'ailleurs, un des soirs de la semaine dernière, c'est là que je vous ai appelé parce que je me serais volontiers
Oh
suicidée. Et
non,
là, il n'y a
non.
pas de. Si, si, si. Ça,
Non.
moi, je comprends très bien que les gens le fassent parce que vous ne savez pas, Olivier. Je ne le souhaite pas. Il y a des moments où on est au bout, au bout, au bout, au bout. On ne voit plus que ça. On est exaspéré. Il y a pas de. Et puis pour moi, pour mes yeux, il n'y a pas de solution.
Oui.
J'en veux à l'ophtalmo qui m'a vu à l'hôpital et qui cet imbécile, il a émis un rapport, je ne vous l'ai peut-être pas dit, mais parce que ça, il ne faut pas trop le dire, n'est-ce pas? Ces messieurs sont intouchables. Il a émis un rapport qui dit qu'il a opéré l'autre œil et ce n'est pas vrai du tout. Il a opéré l'œil qui est complètement, complètement malade, complètement. Je n'ai plus de vision du tout à gauche. À droite, j'ai encore un peu de lumière, voilà. Un peu de couleur, si vous
Oui.
voulez. Mais ça, il ne faut pas le dire. Il ne faut pas le dire. Vous savez ce qui m'est arrivé?
Non.
À l'hôpital, le médecin qui m'a repris après, eh bien, il m'a pris par les épaules et puis il m'a mis à la porte. Il m'a dit, vous racontez vous ne savez pas de ce que vous parlez. Et j'ai dit, ben, c'est mes yeux. Hein. Et il m'a dit, sortez, ne revenez plus.
Mais
Je suis
pourquoi
maintenant.
vous a-t-il dit sortez, ne revenez plus?
Parce que j'ose dire partout, j'osais, maintenant ça m'a passé, de dire que l'ophtalmo, mais il a beau être le chef ophtalmo, mais il n'est plus là, il est à la retraite maintenant. Je lui souhaite une vraiment. Alors, parce que là, autant je suis gentille et connue pour ça, autant quand on marche sous les pieds, parce que les yeux, c'est pas les pieds, mais c'est très important dans la vie. J'ai dit, et c'est vrai, qu'il s'est trompé d'œil. Vous
Il
m'entendez?
s'est trompé d'œil.
C'est dingue. Il s'est trompé d'œil. Il m'a opéré l'œil gauche qui n'avait pas besoin d'être
C'est
opéré.
fou ça, c'est fou.
C'est fou, hein? Et dans le rapport, il a mis qu'il a opéré l'œil droit. Alors, c'est un petit jeune. Un tout jeune interne qui arrivait là et qui m'a dit, mais qu'est-ce que vous avez, madame? Qu'est-ce que vous me racontez? J'ai dit, je vous raconte que mon œil gauche ne voit plus depuis l'intervention et l'œil droit a baissé presque jusqu'au bout. Il m'a dit, vous êtes sûr? Ah, j'ai dit, absolument sûr, ça fait 30 ans, 35 ans. Il est parti chercher dans les archives. Il n'a pas mis longtemps, il l'a trouvé tout de suite. Et puis il me lit que l'autre, il écrit qu'il a opéré la gauche. C'est faux. Il a dit, mais écoutez, c'est pas possible puisqu'il écrit ça de l'œil gauche. J'ai dit, je vous dis que ce n'est pas l'œil gauche. Plus personne ne veut me croire. Et puis voilà, le vieil ophtalmo, ben, il est à la retraite. Il vit bien, il boit bien, il mange bien. Et puis moi, je suis coincée chez moi. Je ne peux plus sortir parce que ma vue a complètement baissé. Complètement bouillée. Voilà. Et donc, l'ophtalmo qui s'occupait de moi, si on peut dire, mais on ne peut pas dire ça, son remplaçant, si vous voulez, il m'a pris par l'épaule et m'a dit, vous allez sortir, madame Philippe. Je dis oui. Elle me dit, ne reprenez plus jamais contact avec le service ici. Alors je suis partie, bien sûr. Je me suis dit, mais quand même, il me faut un ophtalmo, vous savez, il faut une surveillance constante. Actuellement, j'ai l'œil droit qui ne s'ouvre plus, les paupières ne s'écartent plus. Eh bien, je vais maintenant chez un médecin qui est à plus de 40 km d'ici, chez un ophtalmo, qui a très bien compris mon problème, à qui j'ai tout donné, parce qu'en plus de ça, ce rapport qui a été falsifié, je suis arrivée à l'avoir, parce que quand j'ai quelque chose en tête, je n'ai pas rien. Excusez de l'expression, mais c'est ça. Il m'a dit, mais madame Philippe, 35 ans après, ce n'est plus la peine de faire quelque chose. Mais moi, je n'ai appris que là, au mois de mars. Vous comprenez,
oui,
Olivier?
Oui.
Là, je suis coincée, je ne peux rien faire. Et je ne veux rien faire. Bon, là, mes yeux sont en train de s'éteindre, si vous voulez. Et ce que j'aimerais, ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est que je m'éteigne avec les yeux. Voilà. J'ai rien, j'ai personne. Aujourd'hui, on est mercredi. Demain, j'ai encore quelqu'un qui me fait les courses. Quand elle revient pour 4 heures, je suis seule jusqu'à mardi prochain.
Oui, oui. Je comprends que ça soit extrêmement difficile. Il n'y a pas de. À la mairie de Colmar, il n'y a pas d'amicales, des anciens, des choses organisées justement pour les gens seuls en fin d'année.
En ce moment, vous savez, les associations.
Oui.
D'abord, j'ai conduit des associations, surtout spécialement la Croix-Rouge. Mais quand ils ont vu ce qui m'arrivait, ils ont préféré que je m'en aille plutôt que de m'avoir sur le dos. Parce que
vous n'avez gardé aucun contact à la Croix-Rouge des personnes qui...
Non, aucun, Olivier. Parce que moi, je n'ai pas l'habitude de raconter des histoires.
Mais non,
de quelque chose, j'en suis sûre, tout comme l'histoire de ce faux rapport, j'en suis sûre. Eh bien, surtout maintenant, avec ces histoires de Covid et je ne sais pas quoi, les réunions ne peuvent plus se faire. Non, non, là, il règne un grand silence. Et en plus, je suis dans un quartier très calme.
Très calme. Alors vous qui êtes à Colmar, qui vous apprêtez à fêter les fêtes et qui nous écoutez, peut-être avez-vous envie de faire le bonheur de Marie-France, avez-vous envie de faire le bonheur de plusieurs personnes comme Marie-France qui, à l'approche de ces fêtes de Noël, sont seules. Et peut-être vous pouvez nous appeler. On vous mettrait en relation et ce soir-là, je pense que vous feriez
plaisir. Le
plus grand bonheur de Marie-France de passer la chercher en voiture et puis de l'inviter à dîner pour le réveillon. Je sais qu'il y en a parmi vous qui nous écoutent et qui sont capables de tendre la main comme ça, de faire quelque chose pour
oui.
Marie-France et pour toutes celles et ceux qui nous appelleront et qui... sont seuls le soir de Noël. Pensez que la vie, parfois, nous réserve des épreuves, nous réserve des choses qui viennent. Et non, mais bien évidemment qu'on ne souhaite pas à Marie-France, mais vous le savez plus que personne, Marie-France, vous qui vous êtes occupée d'associations, vous qui étiez entourée avant.
Oui, et puis avec bonheur.
Bon, vous ne pensiez pas... Est-ce que vous avez pensé qu'un jour, vous vous retrouveriez...
Non.
seule comme
place,
ça.
Non, non. Mais non, jamais de la vie. Parce que en 86, mon mari est mort. Et moi, je travaillais dans un cabinet médical. Je travaillais très bien et vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Hein. Ça me faisait pas peur, au contraire. Mais quand je me suis rendu compte sur les écrans, parce que je travaillais beaucoup sur les écrans, que je ne voyais plus les tracés rouges et les tracés verts, je me disais, mais qu'est-ce qui m'arrive? Mais à aucun moment, je me suis inquiétée. Ça n'arrive pas, ça. Je voudrais dire à ceux qui sont dans le désespoir, moi, je suis vraiment, des fois, profondément dans le désespoir. Et je voudrais dire à ces gens qu'il faut absolument s'agripper à n'importe quoi. Tout à l'heure, j'étais devant un pot de compote, parce qu'il y a beaucoup de pommes en ce moment. Mais il faut... Je me dis, c'est vraiment pas comme celle de la grand-mère. Mais ce sont des réflexions qu'il faut. Il faut absolument... je sais pas comment vous dire. Parce que souvent... Et en plus de ça, Olivier, après, j'ai fait catastrophe, un cancer. Allô?
Oui, je suis là, je vous écoute.
Ouais. Un cancer de type 3, c'est-à-dire très virulent. Hein. Alors là, j'ai subi... des fois, quand j'entends les jeunes femmes là, chez vous, parce que j'écoute tous les soirs, mm-hmm. Je me dis, mise, si vous saviez ce que... Parce qu'on dit cancer, alors on se dit, ah ben oui, ils guérissent. Je suis guérie, Olivier, figurez-vous. Je suis guérie. Mais ce que j'ai enduré, ça, je ne voudrais plus en parler parce que c'est très, très dur. Et j'avais un excellent oncologue que je remercie encore aujourd'hui infiniment. Mais si quelqu'un a un cancer, il faut absolument, je ne sais pas moi comment
il faut absolument s'occuper de lui, il faut absolument s'accrocher et lui donner de l'énergie. Oui. On n'a plus que 2 minutes, ma chère Marie-France.
Oui, je ne veux pas exagérer.
Vous n'exagérez rien du tout, ma chère. Mais quelques nouvelles, votre fille, pas de nouvelles du tout. Donc, vous ne savez toujours pas où elle est.
Rien. Je ne sais pas où elle est. Et là, il ne faut pas que j'y pense, parce que sinon je passe une bonne nuit en plus.
Non.
Parce que je ne sais pas si elle n'est pas dans un... Comment on appelle ça, vous savez, là où se réunissent tous les drogués, tous les...
Dans un squat ?
Oui, voilà, un squat. Ouais.
Bon, si vous ne savez pas, n'allez pas vous mettre d'idées noires supplémentaires dans l'esprit, d'accord ?
Mm-hmm. Hein ? D'accord.
De toute façon...
Je continue à vous écouter.
Non, mais je sais que vous écoutez, je sais que au moins, cette libre antenne, elle est une chaleur, une lumière pour beaucoup de personnes dont vous faites partie, Marie-France, et qui sont moins seules chaque soir. Mais ce qui serait tout de même bien, c'est que nous recevions des appels ce soir pour vous, et puis pour vous partout, d'où que vous nous écoutiez. N'oubliez pas qu'il y a des gens seuls à l'approche des fêtes de Noël et que...
Je ne comprends pas
que des mairies n'organisent pas ça, parce que je sais qu'il y a des gens qui le feraient avec vraiment avec grande charité et grandeur de cœur. Mais si les mairies n'organisent pas ça d'elles-mêmes, on sait que voilà, les gens, parfois, quand il faut organiser, ça les impressionne un peu. Donc voilà, j'espère que, en tout cas, on va penser à vous, Marie-France, et que quelqu'un va nous appeler pour que ce soir-là, vous ne soyez pas toute seule. Je vous embrasse bien fort, Marie-France.
Oui, moi aussi. Et je vous remercie beaucoup.
Vous en prie.
Beaucoup,
et puis,
tous, parce que ça me fait beaucoup de bien.
Oui,
et vous êtes seule, voilà.
Oui, mais vous êtes très courageuse, ça vous le savez aussi. Hein. Donc, n'oubliez pas ça.
C'est ça ou c'est...
Hein. On vous embrasse.
Et merci pour tout.